French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning.
French morning, y'all.
Cet épisode de French Expat vous est présenté par PetitPoussinNY.com. Crèche et maternelle bilingue français-anglais, elles accueillent vos enfants de 0 à 5 ans, entre 8h et 18h, dans leurs établissements de West Harlem, Brooklyn et du Lower Upper East Side. Appelez dès aujourd'hui le 212-663-7777 et dites French Expat afin d'obtenir une réduction de $500, valable sur toute inscription de 6 mois ou plus, avant le 31 mai 2024. Une belle manière de commencer l'année. Merci à Petit Poussin pour son soutien. Maintenant, place à l'épisode.
T'inquiète, ma poule, ça va aller. Ouais, non, c'est parce que même quand on a déménagé, on n'a jamais douté, vraiment. Mais c'est vrai, quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège, pour aller à Charles de Gaulle, pour prendre avec toute ma vie dans des valises, mon fils, mon chien, mon mari, je me suis dit, oh punaise, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est pas une bêtise? Je crois que c'est le seul moment où je me suis dit, une fois que t'arrives, t'es tellement dans l'action, dans dire, allez, hop, tout régler les problèmes, qu'en fait, après, ça roule, quoi.
Bienvenue sur French Expat, le podcast. Le podcast des voyageurs expatriés francophones du bout du monde.
Bonjour et bienvenue dans French Expat, le podcast saison 2. Moi, c'est Anne Fleur, la créatrice du podcast, et je vous parle depuis Boston. Je vous souhaite très sincèrement une belle et heureuse année 2021, pleine d'amour, de retrouvailles, qu'elle soit placée sous le signe de la paix et de la découverte de soi, de l'autre, et des cultures qui nous entourent. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous présenter à une comparse bretonne du nom d'Océane qui nous parle depuis le sud de la Californie. Ceux qui la connaissent la qualifient souvent d'hyperactive. D'autres lui envient son organisation et elle-même avoue être passionnée et ne pas beaucoup dormir. Serait-ce son secret ? Océane a quitté Vannes il y a près de 15 ans pour faire sa thèse en Belgique. Puis lors de sa recherche de post-doctorat, son envie de découverte et de voyage refait surface, et la voilà qui candidate en Australie, à Boston et en Californie. Finalement, la voilà, un an après, jeune maman d'un petit garçon d'à peine 2 ans, jeune mariée aussi, en route pour l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle, à Paris, se demandant « et si on avait fait une connerie ?» Océane l'avoue, c'est le seul moment où elle a douté du bien fondé de cette expatriation. Près de 5 ans plus tard, elle est désormais maman de non pas un, mais 3 enfants, dont une petite fille née en plein confinement il y a quelques mois. Elle a suivi 2 post-docs et travaille aujourd'hui pour l'une des plus grosses entreprises de biotech au monde. Dans cet épisode, on parle donc de beaucoup de choses importantes, de la culture au travail dans le monde académique, pour une jeune femme aussi, et une jeune maman, de l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée et du misogynisme ambiant auquel on est parfois confronté, notamment dans le monde de la recherche et du développement. On parle aussi du système de santé américain, et Océane revient sur les débuts de son petit Oscar, son deuxième, dans notre monde qui ont été un peu difficiles. Bref, je ne vais pas tout vous raconter, mais je suis très heureuse de vous présenter à Océane. Belle écoute! Bonjour Océane, bienvenue sur le podcast.
Salut Anne Fleur.
Comment vas-tu?
Ça va très bien, et toi?
Ça va plutôt pas mal. J'allais te dire d'où est-ce que tu nous parles, mais j'aimerais bien que tu nous parles de manière très spécifique. Où est-ce que tu es là tout de suite?
Je suis dans mon dressing, parce que c'est le seul endroit où je peux être tranquille et que mes enfants risquent de mettre un petit peu de temps avant de me trouver.
Donc, j'adore.
Je préfère me cacher là, parce que c'est pas un endroit habituel, donc en théorie, ils ne devraient pas me trouver tout de suite.
Ah, brillant, brillant. Écoute, je pense que c'est la première interview qu'on fait dans le dressing, donc je suis ravie. Et donc, ce dressing, il est situé où? D'où est-ce que tu nous parles, Océane, aujourd'hui?
Dans ma maison, qui est située au nord de San Diego, près de Carlsbad.
D'accord, donc en Californie, aux États-Unis. Écoute, merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation pour venir nous raconter un peu ton histoire. Est-ce que tu pourrais, pour ceux qui ne te connaissent pas forcément, nous dire qui tu es, je sais pas, quel âge t'as, qu'est-ce que tu fais dans la vie? À quoi ressemble ta famille et d'où est-ce que tu viens en Europe?
Je m'appelle Océane, j'ai bientôt 34 ans, j'allais dire j'ai 32 ans, mais non, j'ai plus 32 ans depuis 2 ans. Je suis mariée, j'ai 3 enfants, 2 garçons et une fille. Mes enfants ont 7, 3 et 6 mois. Je viens, donc j'habite en Californie depuis janvier 2016 et je viens de Bretagne en France. et on a vécu, enfin moi j'ai vécu 10 ans en Belgique et je suis vétérinaire et chercheuse en virologie.
D'accord, ok, bon on va y revenir. C'est rigolo tu vois parce que j'ai partagé avec l'équipe donc que j'allais te parler aujourd'hui et alors la question et le qualificatif je crois qui revient en permanence pour te définir c'est Océane est hyperactive, je ne sais pas comment elle fait. Donc on va essayer de rentrer un peu dans la légende pour comprendre un peu comment tu fais tout ça. Avant de passer à tout ça, est-ce que tu pourrais, je sais pas, me décrire un petit peu ton enfance? Est-ce que t'as beaucoup voyagé? Est-ce que t'as toujours été attirée par l'étranger, par la nouveauté, la découverte? Ou est-ce que c'est quelque chose finalement qui est arrivé vers toi plus comme une opportunité?
Oui, j'ai pas mal voyagé avec mes parents, beaucoup, beaucoup en Europe surtout. On partait tous les étés, ou en Espagne, en Grèce, on fait les Antilles, enfin. On a beaucoup bougé, c'est vrai qu'on a toujours aimé ça. Moi, j'ai toujours, toujours aimé ça. Et puis, à 18 ans, je suis partie chez mes parents, je suis allée vivre en Belgique.
D'accord. Pour tes études?
Ouais, pour mes études. J'ai toujours eu envie de bouger. Quand j'avais 16 ans, je voulais aller vivre en Australie. Enfin, ça a toujours été dans ma tête. J'ai besoin de bouger, de changer d'air, de voir des trucs nouveaux. Et mon mari est très comme, enfin, on s'est rencontrés, en 2009. Et lui, quand il était petit, il avait fait 4 ans de tour du monde en bateau avec ses parents.
Oh, génial.
De 10 à 14 ans. Mm-hmm. Donc, ça a été, le fait de partir vivre, en tout cas aux États-Unis, une envie commune.
Ouais.
On est tous les deux des voyageurs, quoi.
Il n'y a pas eu une grande négociation, quoi. Vous étiez sur la même longueur d'onde.
Pas du tout.
D'accord.
Je crois qu'on n'a même jamais parlé de, on s'est jamais dit,
est-ce qu'on y va?
Est-ce qu'on part quelque part? C'est de toujours, on fonce, quoi.
Plutôt. Génial, d'accord. Et alors, comment est-ce que ta première opportunité de partir de Belgique pour la Californie est arrivée? C'était un post-op?
Après mes études vétérinaires, donc j'étais diplômée en 2011, j'ai commencé une thèse en virologie, immunologie dans le labo de ma fac. J'étais diplômée le 15 janvier 2016, le 20 janvier j'étais dans l'avion pour Los Angeles. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai cherché un post-doc un an avant de passer ma thèse. J'avais envoyé des candidatures spontanées, j'avais envoyé en Australie, j'avais envoyé à Harvard, dans Boston,
ouais.
J'avais envoyé à Los Angeles, dont je me souviens parce que c'est les trois qui m'ont répondu.
D'accord.
Après, le seul qui avait des sous pour sûr, pour me payer au moins 3-4 ans, c'était Los D'accord. Angeles. Et quand j'ai dit à mon mari, c'était Boston, le froid, ou Los Angeles, le soleil, il m'a dit, il n'y a pas photo. Je vais pas à Boston, je ne marche pas de Belgique pour aller à Boston. Donc on a choisi Los Angeles. Donc j'avais sécurisé le truc un peu un an avant, parce que en plus on avait une maison à vendre, on avait un bébé, enfin Sacha avait 2 ans et demi quand on est parti. Donc je pouvais pas partir, j'étais pas toute seule quoi. Je pouvais pas partir en disant on verra bien. Il me fallait un petit peu de sécurité au niveau du job quoi, parce que comme j'étais la seule à avoir un boulot, je pouvais pas partir et me dire qu'au bout d'un an on me dise on a plus de sous. Faut que tu rentres quoi. Donc j'avais dit ok, je prends la sécurité. C'était un super labo. C'était USC, pour ceux qui connaissent, c'est University of Southern California, donc c'était l'université de Californie du Sud à Los Angeles. Et je suis partie en visa J1, mon mari et mon fils avaient J2, et ça s'est fait assez facilement.
D'accord.
Parce que j'ai fait un Skype avec le prof et pendant le Skype, il m'a dit « je te propose un boulot ».
Génial. Ton aîné avait quel âge à ce moment-là?
Quand on est parti, il avait 2 ans et demi.
D'accord. Donc au moment où il commence juste à parler aussi, comment est-ce que vous avez préparé, je sais pas, par rapport à la langue, comment vous avez géré tout ça?
On n'a rien préparé du tout pour lui. En tout cas, on s'est dit qu'il s'adapterait et ça a été très très vite le cas. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon mari travaillait pas au début parce qu'il n'avait pas de permis de travail.
Ouais.
Parce qu'en J2, il faut demander un permis de travail une fois qu'on est sur le territoire. Donc, en arrivant, on a fait tous les papiers, on a envoyé, puis il a attendu. Donc, pendant ce temps-là, il s'occupait, il était pas au foyer, il s'occupait du petit pendant que moi j'allais travailler. En fait, il y avait juste derrière chez nous, on avait trouvé un appartement, et juste derrière chez nous il y avait une petite crèche, et c'était une crèche coréenne. Donc c'était dans une église coréenne, il y avait que des Coréens, mais ils parlaient anglais toute la journée, ils avaient juste une petite option coréen, voilà. Et en fait, on a été voir une fois, ça avait l'air pas mal, du coup on a commencé à le mettre, je crois qu'on le mettait 2 ou 3 fois par semaine, pour qu'il apprenne l'anglais. Et en fait, ça s'est très vite mis en place, au bout d'un mois il commençait déjà à comprendre. Les premiers jours, c'est vrai qu'il comprenait rien, mais au bout d'un mois, il comprenait tout, il répondait par des mots, il faisait pas encore des phrases. On s'est pas vraiment inquiété pour lui, en fait. La maîtresse qui s'occupait de lui, là, c'était une Coréenne qui parlait parfaitement anglais, elle était née ici. Et au début, évidemment, elle n'arrivait pas à communiquer avec lui, donc elle nous avait demandé de faire une liste de mots en français sur un papier, avec la traduction anglaise, pour pouvoir lui parler un petit peu. Mais sauf que du coup, elle n'avait pas la prononciation des mots, c'était très marrant. Donc on lui avait fait une petite liste de mots, elle nous avait mis une liste de mots qu'elle voulait qu'on traduise, donc on avait traduit. Et du coup, elle lui parlait comme ça, elle faisait un mix de franglais pour se faire comprendre. Et sauf que Sacha avait du coup appris certains mots avec la prononciation américaine, des mots français. Donc à la maison, il commençait à nous dire des trucs comme « pas bien »,« pas bien ». Non, c'est que ce que ça veut dire ce truc. En fait, c'était « pas bien ». Sauf que la dame devait dire « pas bien » parce qu'elle n'avait pas compris que ça disait « pas bien ». On rigolait beaucoup avec ça parce que il se mettait à parler en français avec un accent américain.
C'est clair.
Alors, il a appris très vite, du coup. Il a appris très vite. Je pense que c'est grâce à ça. Elle a eu beaucoup, beaucoup de patience. Elle s'est beaucoup occupée du audio.
Bah, c'est hyper précieux, ça. Question. Donc, du coup, ton mari était en J2 quand vous êtes arrivés. On parle souvent du conjoint suiveur. C'est pas toujours facile, justement, de devoir mettre un peu en pause, peut-être, la carrière, le temps de régler l'immigration. Est-ce que ça a été une conversation qui était difficile ou est-ce que, enfin voilà, comment ça s'est passé pour ton mari de ce côté-là?
Alors oui, c'était à peu près le seul point noir, c'est un truc qui moi m'embêtait, lui ça l'embêtait pas du tout.
Ouais.
Moi j'étais plus mal à l'aise parce qu'il avait un bon poste en France, il était directeur commercial dans un, enfin il travaillait pour Volvo en Belgique, enfin, c'était pas en France. Mais... il gagnait bien sa vie. Ça se passait très bien, il a démissionné vraiment parce qu'on partait. Et moi j'avais dit t'es sûre, j'ai pas envie que tu me le reproches plus tard d'avoir déménagé, enfin, voilà, que ce soit pour ma carrière. Il m'a dit non, mais de toute façon moi j'ai envie de le faire, c'était pas que le travail, y a pas que ça dans la vie, et on a envie de bouger, donc c'est voilà. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il a même retrouvé du boulot avant d'avoir son permis de travail, parce qu'à un moment, il avait cherché, il avait commencé à regarder, et il y avait des, il avait trouvé une annonce, il avait commencé à contacter les gens, il a dit, eh ben, oui, dès que vous avez votre permis de travail, recontactez-nous, et du coup, il a été embauché, à ce moment-là, et il a bossé, jusqu'à mai 2020 pour eux, et puis il y a eu le Covid.
Ouais.
Et ouais, il a perdu son travail à cause du Covid. Mais bon, pour ça, c'est pour l'histoire, voilà, il va retrouver quelque chose, il n'y aura pas de problème, mais. Ça s'est très bien passé de ce côté-là pour lui. Il avait même trouvé plus dans sa branche, c'était dans la voile, tout ça. Donc, c'était au final un bon changement pour nous deux. Et c'est ce qui m'inquiétait le plus, donc j'étais ravie.
Ouais. T'es venue donc ici pour le boulot, tu le disais. On a abordé un petit peu le monde de l'académie et des post-docs dans un épisode de la saison 1 avec Jean-Mathieu notamment. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste le monde de l'académie, justement toi aussi? Ouais, est-ce que t'as des quelques comparaisons un petit peu, nous faire comprendre un peu dans quel milieu tu as évolué ici?
Je suis assez d'accord, j'ai écouté l'épisode de Jean-Mathieu, je suis assez d'accord, j'ai vécu une expérience assez similaire à la sienne. Donc moi j'ai fait deux post-docs ici, donc, ce qui s'est passé, c'est donc j'ai fait ma thèse en Belgique, après je suis partie en post-doc à Los Angeles, j'ai fait 2 ans, et au bout de 2 ans, j'ai eu mon deuxième fils. D'ailleurs, pendant ces 2 ans-là, je suis en rémo congé maternité, et notre PI, donc notre PI c'est Principal Investigator, donc c'est le chef du labo, nous a dit bonne nouvelle, on déménage, le labo déménage, on part à Pittsburgh.
Surprise.
Et là, je dis ça à mon mari, il regarde sur la carte, il me dit jamais la vie je l'ai vue là-bas. Et de toute façon, on voulait pas, donc on voulait rester en Californie. Donc il a dit, vous avez soit, en gros, mon chef nous a dit, vous avez soit le choix de partir avec moi, de me suivre et on, voilà, je paye tous vos frais, on déménage, machin, continuez de bosser pour moi, soit vous cherchez un autre boulot ici. Sachant que vous êtes sans visa, il va falloir transférer votre visa. Parce que faut savoir que le J1,
par employeur,
il faut le transférer d'académique en académique. Tu peux pas le transférer dans le privé. Il faut à tout prix que ce soit un programme universitaire. Donc, moi, je me mets en quête d'un post-doc en Californie. Donc, je commence à envoyer des CV de manière spontanée. Pareil que pour le premier, j'avais trouvé en spontané, il n'y avait pas d'annonce, rien. Donc, je vais essayer de trouver dans mon domaine. Et par chance, oui, j'ai eu facilement 4 entretiens. Un à UCSD San Diego, 2 à UC Irvine, il y en avait un autre qui était programmé à San Francisco, que du coup j'avais annulé parce que j'avais trouvé, un dans l'Oregon, j'ai même plus que ça, j'en ai 5. J'étais à UCI faire un entretien, et puis voilà, le soir même j'avais une promesse d'embauche, donc pour transfert, donc on a commencé les papiers du transfert, ça prend du temps, on commençait un peu à l'avance, ça a pris 2-3 mois.
Ah quand même, ok.
Et puis on a fait transférer, parce que le temps de faire tout, que les universités doivent se parler, parce qu'ils doivent, chacun, il y en a un qui doit relâcher le J1 et l'autre qui doit l'accepter. Enfin, c'est toute une histoire. L'immigration, c'est toujours toi.
C'est vrai, c'est jamais très simple.
Donc voilà. Et puis on était une famille, donc fallait tout faire transférer en même temps. Enfin bref. Puis il fallait trouver une maison, parce que du coup, il fallait qu'on déménage, parce qu'on est parti à UC Irvine, qui est à Orange County. Alors qu'avant, on était sur LA, donc il fallait déménager parce que le trafic, c'est une catastrophe.
Alors Orange County, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quoi? C'est une heure de Los Angeles?
Ouais, quand ça roule bien.
Ouais, d'accord.
Ouais, c'est Orange County, c'est tout ce qui est Newport Beach, Laguna Beach. Donc c'est entre San Diego et Los Angeles.
Mm-hmm. Mais plus proche de Los Angeles.
C'est le dernier comté, ouais, c'est le dernier comté avant le comté de San Diego.
Ah, d'accord.
Et c'est très sympa aussi. Très cher aussi, mais c'est très sympa.
D'accord.
Et donc, on a vécu là 2 ans. Enfin, presque 2 ans. Mm-hmm. Et voilà. Donc, ma première expérience, c'est que, ouais, j'étais dans un labo. Le premier était quand même assez compétitif, beaucoup de compétition entre les gens. Ça m'a un peu choquée au début parce que on n'était pas du tout comme ça en Europe, en fait. On n'a pas du tout cet esprit. Le choc culturel dans le monde du travail, en tout cas dans l'académique, ouais, il est assez violent quand on part. Puis pour en avoir parlé, discuter avec d'autres Français, Belges, enfin, je crois qu'on est assez uniforme là-dessus. Mm-hmm. Ils sont assez d'accord avec moi. Hein. Tout le monde a eu cette espèce de soufflet qui redescend, mm-hmm, quand t'arrives. Les gens sont sympas. Par contre, dans le boulot, personne s'aide, quoi. Personne va t'aider. Tu vas devoir te démerder tout seul.
Ouais.
Moi, je faisais mon rythme. Hein. Je faisais mes heures quand je faisais en Belgique et je travaillais efficacement, donc ça allait. Mais mes collègues, ils bossaient 7/7, jusqu'à 10h du soir, parce que le chef il aimait bien voir tout le monde tout le temps, quoi. C'était.
Mais c'est, ouais. Mais en fait, ouais, je pense, ouais, dans le monde de la recherche académique, effectivement, je pense que c'est très particulier. Ouais.
Mais il y a beaucoup de, enfin, il faut les comprendre, ils ont beaucoup de pression, les profs, ils ont beaucoup de pression pour avoir des financements.
Ouais, donc, c'est pas la même mécanique qu'en Europe.
Non, ils sont financés que par les financements du NIH, tout ça. Donc, s'ils écrivent pas de grandes, qu'ils ont pas de grandes. Et s'ils publient pas, ils ont pas de grande. Enfin, c'est vraiment un cercle vicieux, quoi. Donc, ils deviennent un peu comme ça. Mais j'ai pas trop aimé qu'on me reproche d'avoir des enfants. J'ai
on
pas
l'a
trop
reproché.
Aimé qu'on me reproche d'être enceinte. Ouais.
Oh, vache.
De manière assez indirecte, mais le jour où j'ai dit à mon chef, dans son bureau, que j'étais enceinte, mm-hmm, il m'a dit, tu es la première femme en 25 ans qui est enceinte dans mon labo.
Ah, d'accord. Et c'était pas un compliment, quoi.
C'était la seule. Et c'était pas un compliment. Et il m'a dit, comment tu vas faire pour travailler avec 2 enfants? J'ai eu droit à ça. On m'a demandé si mon mari comptait, arrêter de travailler pour s'occuper des enfants.
C'est dingue!
Et puis, ouais. Et une fois que j'avais mon fils, on me disait, quand il parlait de ma carrière, il me disait, parce que t'as des enfants, tu dois t'attendre à ça et pas à, tu peux pas aller au plus haut, quoi.
Ah, oh, wow.
J'avais des commentaires comme ça. Alors qu'en fait, en plus, le gars, était content de mon boulot. C'est ça qui est le pire, ouais, quoi. J'avais envie de dire, mais je fais la même chose,
ouais,
que
bien sûr,
des trucs, mais et puis c'est mon mm-hmm, problème. C'est pas ton problème. J'ai des enfants, mais je vois pas en quoi ça te regarde, quoi. Ils sont à la crèche. Ouais. Je fais mon boulot. J'ai mes résultats. Et la preuve que j'avais mis ça, c'est que quand il est parti à Pittsburgh, je lui ai dit que je voulais rester et que je voulais pas le suivre. Il a insisté pendant 4 mois en me disant, en m'envoyant des photos de Pittsburgh, en me disant, regarde comme c'est beau, machin. Donc, je veux dire, ouais, tu fais pas ça si vraiment tu penses que je suis pas
bien
capable,
sûr,
quoi. Tu vois ce
bien
que je
sûr,
veux dire? Donc, c'était un peu exagéré. Enfin, ouais. Après, j'ai appris plein de choses. Il n'y a pas que du négatif, mm-hmm, dans ces expériences-là. Je le dis toujours.
J'espère.
On apprend toujours, même si on n'est pas très heureux, ouais, sur le moment de se dire, j'ai appris à être super efficace dans mon boulot. J'ai appris plein de nouveaux trucs. J'ai aussi appris à être flexible parce que je me suis du coup rendu compte que je pouvais travailler même que dans des conditions assez austères parfois. Mm-hmm. Alors maintenant, je suis dans une boîte privée et je trouve que tout est super cool, super génial. Ouais. Les gens sont super sympas. Je suis toujours super étonnée d'ailleurs. Pourquoi les gens sont si gentils? Mais parce qu'en fait,
t'as pas été habitué.
Quand t'as vécu ça pendant des années, ouais. Et ça m'a formée encore plus en tant que scientifique, j'ai appris plein de trucs. Je sais que maintenant je suis, ouais, une bonne scientifique entre guillemets parce que voilà, ça se passe très bien dans ma boîte, ouais, maintenant et c'est grâce à tout ça. Je suis pas devenue comme ça en
claquant
de doigts. Mais très différent de mon expérience, ouais, en Belgique qui par contre était géniale. J'ai encore des contacts avec mon chef de labo, ouais, tout ça. Ils étaient géniaux. On avait tous des enfants et on était tous, on bossait tous, ouais, quand même, tu vois. Donc, mais là, la culture est, ouais, différente, vraiment.
Ouais, non, c'est vraiment impressionnant. Je suis intéressée en fait de creuser justement un petit peu cet équilibre vie privée, vie professionnelle dans le travail. Donc, on a parlé un petit peu du monde de l'académique. Maintenant, tu es donc dans une grande entreprise, un des géants, hein, en termes de biotech. Et en plus, le jour où on se parle, donc là on est mi-novembre, on est encore avec des rythmes un peu particuliers vis-à-vis des enfants qui sont pas forcément scolarisés en présentiel. Comment est-ce que tu gères tout ça? Et ça m'intéresserait de savoir un petit peu, bah, justement, comment est-ce que ton employeur t'aide un peu à vivre tout ça? Je crois savoir que tu travailles, et c'est complètement fou, le soir, et que tu fais des journées avec les enfants.
Ouais.
Tu peux me raconter un peu?
Ouais, c'est ça, en fait. Pendant la pandémie, donc mars, mi-mars, on est tous lockdown, là. Donc, on rentre tous chez nous. On est restés tous chez nous à travailler à distance, les scientifiques. On est restés jusque mi-juillet. Et moi, j'étais en congé maternité, j'ai ma fille en mai. J'ai repris le boulot fin juillet. Donc, vraiment juste mais après ouf, hein. que tout retourne sur le site. Mais on a rouvert à 30%. Ça veut dire que pour les scientifiques au début et la manufacture.
Ouais, ceux qui ont besoin d'aller à la paillasse pour des choses comme ça, quoi. Ouais.
C'est ça, parce que nous, on peut bosser en remote quelques mois, le temps de faire les papiers, les machins, mais au bout de 3-4 mois, il n'y a plus rien à faire, quoi. Je veux dire, il faut aller produire des datas, tester nos trucs, faire avancer le développement de produits, tout ça. Donc voilà, ils nous ont renvoyé, ils nous ont proposé 3 shifts. Donc, il y avait le chiffre du matin jusqu'à midi, plus ou moins le chiffre d'après-midi et le chiffre du soir. Et moi, j'ai pris le chiffre du soir qui est de environ, je pars à 4h30, je rentre à 9h30. Parfois, si j'ai besoin de plus, bah, je peux rester jusqu'à minuit si j'ai envie. Pour ça, j'arrive à tout faire en 4h. Donc, parce que, en fait, je voulais m'occuper de mes enfants parce que Sacha, il va à l'école. Sauf que l'école, c'est que 2h30 par jour de midi et quart à 2h45. Bâche. Que le matin, c'est online learning. Donc, tout le matin, c'est...
Zoom, quoi.
Ouais, travail sur ordinateur, mais il est en first grade, donc ouais, il a 7 ans. Il n'est pas du tout autonome. Si t'es pas derrière ses fesses, il est en train de regarder le plafond, attendre que les heures passent, ou alors il pense à un truc et il me parle de poney, alors qu'il est censé faire des maths, quoi. Bah, il a 7 ans, donc s'il n'est pas là pour le focus toutes les 5 minutes, en disant « Sacha, tu travailles ». Et on a aussi les deux autres qui sont dans nos pads, donc il y a Oscar qui a 3 ans, et la petite qui a 6 mois. Donc et puis comme je l'allaite, ça m'arrange comme ça d'être avec elle. Et après il part à l'école et moi je pars vers 4h30 travailler. Je fais mes manips en 4h, j'essaie de me grouiller vraiment pour tout faire. Si j'ai besoin de bosser plus, je rebosse sur mon ordi le soir après. Ça m'arrive ou le week-end pour compenser quand les enfants sont couchés. Si j'ai besoin de faire une présentation, par exemple la semaine dernière j'avais une présentation, ben je l'ai faite le week-end quoi, parce que j'ai pas le temps de faire ça sur mon shift. Je le fais de chez moi sur mon ordi. Tout ce qui est boulot d'ordi, tout ça, je peux le faire de la maison un peu comme je veux. Et mes managers sont très contents comme ça. Voilà, ils sont tant que les résultats sont là, ils s'en fichent un peu de comment je m'organise, en fait. Ça les arrange que je sois sur le shift 3 parce que personne veut le shift 3. Au final, ça les arrange comme ça. Du coup, ils décongestionnent un peu le shift 1 et 2 pour laisser à d'autres gens qui préfèrent prendre ce shift-là. Donc, en fait, le shift 3, c'est très bien parce que du coup, il n'y a personne le soir. Je suis super tranquille, je fais mes trucs. Et en fait, du coup, comme j'ai pas trop de distractions parce qu'il y a personne, je fais 4 heures vraiment à fond, quoi.
D'accord. Question, du coup, pour rebondir un peu là-dessus. Donc, tes horaires sont aussi, réduits, même si tu fais, comme tu dis, tu prends sur ton week-end ou tes soirées si t'as besoin pour finir tes projets. Du coup, d'un point de vue très pratique, nous, je sais que tu vois, au MIT, ils ont permis aux familles d'adapter leurs horaires jusqu'à fin août. Et à partir de fin août, ils ont dit, OK, si maintenant vous pouvez pas faire toujours vos 8 heures à peu près par jour, eh ben, ils diminuent les payes, en fait. Et du coup, je me demande, dans l'industrie, est-ce qu'ils ont eu des approches un peu similaires ou est-ce que finalement vous arrivez à gérer?
Pour l'instant, non. Ils nous disent qu'on doit faire 8 heures. Voilà, c'est la politique, enfin, c'est normal. On est quand même full-time employees, donc on doit faire nos 8 heures. Après, je pense qu'au cumulé, attendez que je prends pas de pause du tout, parce que la journée, normalement, t'avais des pauses pour le lunch, tout ça. Le fait que je te récompense un peu le week-end, au final, je pense que je suis pas loin des 8 heures. Et alors, il y a un autre truc aussi que j'ai pas mentionné, c'est que la journée, c'est pas que je ne travaille pas, c'est que je prends tous mes meetings et tous mes calls.
Ah, quand même.
Donc, en fait, j'ai facilement une heure ou deux heures de meeting, parfois, la journée.
Tu fais des journées plus d'hallucinantes.
Ouais. Donc, je suis en meeting, donc je suis en mute, et je m'occupe des enfants. Et quand je dois parler, je leur dis, taisez-vous. 5 minutes, je dois parler, je me unmute et je dis quelque chose. Et après, je me remute. C'est un peu folklore, mais, ou alors je me marie là et évidemment, je m'enferme dans une pièce. Pas forcément le dressing, un autre endroit. Ouais, donc c'est pas que 4 heures, c'est 4 heures plus mes meetings la journée, plus mon travail personnel sur mon ordi. Donc je pense que je suis facilement 8 heures. Et de toute façon, ils nous ont dit, vous êtes full-time employee, donc vous devez faire vos 8 heures. Et de toute façon, à la fin de l'année, il y a des évaluations. On a nos objectifs individuels. Et il faut qu'on les réussisse, quoi. Donc, c'est assez facile à mesurer. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'ils diront
peut-être... Ils sont quand même plus concentrés sur le résultat que sur la manière d'y arriver.
Ils sont très concentrés sur le résultat. Si tu as fait tout ce qu'on t'a demandé, peux être très efficace et tu peux être quelqu'un de moins efficace et passer 8 heures à le faire. Tu vois ce que je veux dire? C'est le résultat qui est important.
J'aimerais bien qu'on discute un petit peu aussi. Donc, tu le disais, ton troisième enfant, ta petite fille, est née en mai 2020. Ton deuxième est né aussi aux États-Unis. Mm-hmm. Oscar, à quel âge?
Il a 3 ans et demi. Il est mai 2017, ouais.
Mai 2017. Ah ouais, donc ils ont
3 ans d'écart, ouais.
Pile 3 ans d'écart. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu justement de... Enfin, toi qui as connu du coup la maternité en Europe, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu des différences et des similitudes que tu as observées entre les deux, j'allais dire, les deux pays ou les deux cultures? Et j'imagine aussi que ça a dû être très particulier d'accoucher de ta petite troisième en pleine pandémie.
Sacha est née en Belgique en 2013. Contrairement à la plupart des expats à qui j'ai parlé, j'ai préféré la grossesse en Europe. J'ai aussi une mauvaise expérience avec Oscar, donc je pense que ça m'a complètement biaisée de ce côté-là. Mais ouais, en tout cas dans mon cas, ils ont été plus compétents en Europe qu'ici. Bon, après l'accouchement, évidemment ici c'était quand même royal. Ils sont aux petits soins. Il y avait une chambre, c'est une chambre d'hôtel. Pour Alba, là, j'avais l'écran qui faisait la taille du mur, quoi, l'écran de la télé. C'était énorme, j'ai l'impression d'être au cinéma. Ouais, j'ai préféré le suivi en Europe. Et la différence, c'est qu'ici, on voit le gynéco. Enfin, nous, moi, j'avais une écho tous les mois pour Oscar, quasiment. Pour Alba, j'en ai eu moins parce que il les faisait pas trop sur le site. Mais j'avais quand même tous les mois un rendez-vous. Il y a quelques petites différences. Ouais, il y a pas de rééducation périnéale, alors qu'en Europe, il y en a. Je trouve ça super bête. Enfin, bref. Il faut se débrouiller tout seul ici. Enfin, faut connaître un petit peu, quoi. Je pense que si t'es américain, t'as jamais entendu parler de rééducation périnéale avant. Ce qui est quand même vachement dommage.
C'est clair.
Bref, avec toutes les conséquences que ça peut avoir quand t'es plus âgé, c'est un peu embêtant. Ce que j'aime pas trop, la médecine américaine, c'est très business. Moi, je suis un peu, je suis vétérinaire, donc je suis très consciente de tout ce qui est, je comprends quand on me parle de problèmes médicaux et tout ça. Et c'est vrai, quand on essaie de me vendre des trucs qui sont pas nécessaires, je le vois. Enfin, je le vois et je le vois arriver, quoi. Et c'est là que ça me gêne, parce que je me dis, putain, c'est le commerce, là. On a essayé de me vendre de congeler les cellules souches, pour cas où il y a une leucémie. Mais, enfin, tu vas dans les papiers, si tu étais sur PubMed pour vérifier, quoi. Effectivement, c'est bien de congeler ces cellules souches pour éviter vraiment de leucémie, mais c'est pas toutes les leucémies que ça peut soigner. Donc au final, tu payes une banque qui congèle tes cellules et ça coûte une fortune, et pour peut-être pouvoir l'utiliser si jamais t'as un cancer et si jamais t'as le bon cancer, quoi. Tu vois, ça limite vachement les cas d'utilisation.
C'est dur, hein, parce qu'ils sont, enfin, c'est des vrais vendeurs, en fait, comme tu dis, pour ça.
Ah,
parce
c'est des vendeurs.
Sur la culpabilité, quoi. Tu dis, ok, en tant que
parent,
nous, on s'est posé la question de congeler les cellules du cordon. Ouais, c'est pas évident.
Ouais, et puis on te vend, moi, ils ont voulu me vendre le test ADN là, au bout de 3 mois. Ouais. Mais mon assurance couvrait pas. Mais bon, ils ont insisté lourdement en disant, vous savez, avec ça, on détecte 99% des maladies génétiques, alors que l'autre, c'est que 70%. Alors, moi, j'ai fait les tests qu'on m'avait fait en Belgique. Comme ça, j'ai choisi en fonction de ça, parce que je trouvais que c'était raisonnable. J'étais en dessous de 35 ans. J'étais pas en catégorie à risque. Donc, j'ai fait ce choix comme ça, quoi. Mais c'est vrai que j'ai souvent des copines qui me voient en disant, oh, je sais pas quoi choisir. C'est l'angoisse, quoi. C'est l'angoisse.
Pour rebondir justement sur la santé aux US en général, vous avez vécu un moment difficile, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure, quand Oscar a eu 3 semaines, tu veux nous expliquer un petit peu justement cette histoire de facture et de business de la médecine?
Ouais, c'était dingue, je crois que ça m'a définitivement calmé avec la médecine américaine. Bon, après, j'ai été un peu réconciliée avec Alba, parce que ça s'était très bien passé. Mais... Ouais, Oscar, donc c'était en 2017, Oscar est né en mai. Il allait bien, tout allait bien. Et puis il y a 3 semaines, il avait passé une nuit difficile, mais bon, il dormait pas très bien, donc j'étais pas plus inquiète que ça. Mais il mangeait pas trop. Enfin, il était bizarre. Et je dis, il a peut-être des coliques, quoi. Ouais. Souvent ça sur les coliques. Mais je sentais déjà qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Il était allaité, tout ça. Je vais pour le changer, et là je vois la masse tout de suite, la masse au niveau de l'aine. Et là je dis à mon mari, ok, En plus, enfin, je suis véto, c'est des trucs qu'on voit chez les chiens aussi. Enfin, c'est des trucs, moi, direct, j'ai su, c'était, donc, sûrement c'était une hernie inguinale. Et, j'avais fait le lien tout de suite avec les symptômes, c'est-à-dire qu'il mangeait plus, il faisait, voilà. Pour moi, c'était une hernie inguinale étranglée. Et ça, c'est une urgence vitale. Ça veut dire que l'intestin a twisté, le sang passe plus dans l'intestin. Donc, si tu attends trop longtemps, ça se nécrose, et là, c'est la péritonite, enfin, c'est la catastrophe. Donc, j'ai pris le bébé, j'ai été voir mon mari, et j'ai dit, il faut que tu nous emmènes aux urgences tout de suite. En plus, je suis pas du genre à paniquer, je suis toujours la celle qui calme tout le monde en disant, c'est pas grave, il s'assaigne, mais c'est rien. Alors que lui, il est en mode, toujours panique, faut aller à l'hôpital, là. Du coup, là, il était en mode, qu'est-ce qui se passe, quoi? On va à l'hôpital le plus proche qui prenait mon assurance, qui était juste à côté de la maison. Donc là, j'arrive avec le diagnostic. Je dis au gars, j'ai un bébé de 3 semaines, il a ça, c'est une hernie inguinale étranglée, il faut qu'il voit un chirurgien maintenant, ou un médecin, ou un pédiatre, quoi. Ils me font attendre de nouveaux urgences, une fois dans le box et tout. Le gars, il me dit, ah oui, il confirme mon diagnostic, le gars, le docteur. Et après, on me dit, non mais incroyable, on me dit, par contre, on n'a pas de chirurgie pédiatrique ici, donc on peut rien faire. Il faut que vous changiez d'hôpital. Mais vous pouviez pas me le dire avant.
Ouais, c'est...
Là, on vient de perdre 2 heures. Avec un bébé de 3 semaines qui a un intestin étranglé, il était pas bien, il était vraiment tout mou. Enfin, je l'ai vu mourir, moi. Franchement, je l'ai vu mourir. Et moi, je pleurais parce qu'en plus hormones postpartum, 3 semaines.
Ça, ah oui, 3 semaines.
Je pleurais. J'avais Sacha avec moi qui comprenait pas ce qui se passait. Le pauvre, il avait même pas 4 ans. Et le gars, donc je dis transférez-nous. Enfin, il faut qu'on aille où. En fait, il fallait que j'aille à l'hôpital où j'ai accouché, qui était un peu plus loin, à Pasadena. Le gars, il dit, bon, par contre, faut que vous preniez votre voiture, parce que si on attend l'ambulance, ça va être trop long, parce que l'ambulance, elle est pas là. On est en 2017, à Los Angeles, et vous n'êtes pas foutu notre, donc, on remet le bébé, on remet le bébé dans le cosy, on transporte tout le monde, et le gars, il nous dit, vous inquiétez pas, j'ai appelé Pasadena, ils vous attendent, vous allez pas attendre un centre d'attente. Bon, j'ai dit, bon, si on n'attend pas, c'est bon, on y va, on fonce. Donc, Mathieu, il me dépose dans les urgences. Directement, je dis, occupe-toi de Sacha, trouve quelqu'un pour le garder, et tu reviens me voir. La nana des urgences m'envoie bouler en me disant, attendez, aucun coup de fil d'Arcadia, c'est pas vrai, machin. J'attends, mais au moins encore 2 heures dans la salle d'attente.
C'est pas vrai.
Ça fait, le gars, ça fait plus de 4 heures que j'attends avec mon bébé, avec le diagnostic. Il faut que la hernie, elle soit levée, quoi. Sinon, ça va être la chirurgie, la péritonite, enfin, bref. Au final, ils me mettent dans un box. Là, j'ai une interne qui vient me voir. Il enlève l'hernie, c'est-à-dire qu'il repousse les intestins dans l'abdomen. Donc, c'est une manipulation assez délicate. Donc, évidemment, il a hurlé.
Douloureux aussi.
Il me dit, c'est bon, maintenant, il va aller bien. Vous inquiétez pas et tout. Je dis, écoutez, vous êtes sûr qu'il va aller bien? Moi, j'étais en mode minutage, quoi. Je savais qu'il y avait 6 heures entre le moment où il avait ça et le moment où il fallait, avant qu'il y ait vraiment des séquelles au niveau intestinal. Quoi.
D'accord.
Je leur dis, ça fait plus de 6 heures, là, qu'il a ça. Vous êtes sûr que ça va aller? Il faut pas l'opérer, quoi. Ouais. Du coup, elle me dit, attendez, je vais chercher mon chef, il va passer vous dire bonjour. Genre, le chef va passer me dire bonjour. Ok, je pense qu'elle est en train de se dire, ok, ouais, peut-être qu'elle a raison, je vais peut-être aller demander, quoi. Et effectivement, le chef de chirurgie est venu, et il m'a reposé les questions. Il me dit, racontez-moi depuis le début ce qui s'est passé. Je raconte. Et là, il me dit, ok, on va vous garder, demain on l'opère. Heureusement que j'en ai reparlé, quoi. Ils l'ont opéré, et le lendemain, ils l'ont opéré. Ils ont vu que l'intestin avait souffert, mais il n'était pas nécrosé, il n'était pas ischémique. Donc, quand le sang ne passe plus, enfin que ça commence vraiment à avoir des lésions irréversibles, ils m'ont dit, on va le sauver, on n'a pas besoin de faire de résection. Et par contre, ils ont refermé donc les trous pour éviter que la hernie se répète. Mm-hmm. Et c'est là qu'ils ont vu que il avait que un canal déférent. Donc un canal déférent, c'est ce qui amène les spermatozoïdes vers l'extérieur. Il m'a dit, vous savez, ça c'est souvent lié à une absence de rein. Est-ce que vous, à l'échographie du deuxième trimestre, ils vous ont dit qu'il manquait un rein? J'ai dit non, ils m'ont dit qu'il y avait 2 reins. Donc il m'a dit, ok, on va quand même faire une écho pour vérifier.
Enfin, c'est complètement lunaire. 3 semaines, il ne savait pas qu'il avait qu'un rein.
Ouais, dingue.
C'est hallucinant. Non.
Et 2017, quoi. Enfin, on n'est pas dans les États-Unis, quoi.
Ouais, bien sûr.
Et ma gynéco, c'est la chef de gynécologie, quoi, du service. Ça, c'est... Bref. On fait l'écho, effectivement, il manque un rein. Moi, je dis, c'est quoi ce bordel? C'est dingo, quoi. Ouais, non, c'était... En plus, ça, c'était la deuxième hospitalisation qui s'en sont rendu compte qu'il avait qu'un rein. Parce que dans la première hospitalisation, ils m'ont dit, faites une écho, tranquille, plus tard, on va voir s'il avait qu'un rein. On ressort de l'hôpital. Et en fait, une semaine après, il a fait une infection des plaies. Donc, il avait du pus qui sortait au niveau des cicatrices. Donc, je rappelle, c'était un dimanche de nouveau. Je rappelle le pédiatre, je dis ça. Il me dit, le chirurgien, il me dit, écoutez, allez aux urgences. Il a 1 mois et on peut pas risquer la septicémie ou n'importe quoi, il faut retourner. Du coup, ils lui font là, ils lui font toute la batterie de tests. Là, c'était là, franchement l'horreur. Ils lui ont fait ponction lombaire, le pauvre, il avait déjà tellement subi, quoi, parce qu'il avait moins d'un mois et que ici, on respecte les protocoles quand les bébés ont moins d'un mois. On fait tout ce qu'il faut faire dans le livre. Même s'il a eu une opération, que c'est sûrement une infection des plaies, on veut vérifier que c'est pas une méningite. Donc le pauvre, il a eu une ponction lombaire, il a eu la totale. Moi, on m'a fait sortir de la chambre. Ils ont tout fait sans moi parce qu'il hurlait. Mmh. Ils voulaient pas que je sois là. Donc ils m'ont mis super loin, pas que je l'entende pleurer. Mmh. Enfin bref, c'était atroce. Et donc c'est à ce moment-là qu'ils ont vu qu'il avait qu'un rein. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait l'échographie. Mais entre-temps, comme ils avaient peur à la méningite, ils l'ont mis sous traitement antibiotique qui était néphrotoxique, donc c'est toxique pour les reins. Et après, ils lui ont fait l'écho, ils ont vu qu'un rein. Du coup, moi, j'ai dit, vous arrêtez tout de suite l'antibiotique qui est pas bon pour les reins parce qu'il avait qu'un rein et qu'il fallait le préserver, quoi. Et je dis, c'est sûrement une infection des plaies, en plus. Mais bon, ils avaient fait ça au cas où. Le lendemain, le résultat de la prise d'urine revient. Ils me disent, il a une infection urinaire. Je dis quoi ? Je dis c'est quoi ? Mais il a une infection urinaire, il a que un rein. Vous lui avez mis des antibiotiques, des phrodoxines. Je dis mais c'est quoi ? C'est le cauchemar quoi, ouais, le cauchemar. Et je dis donc il a une infection urinaire et une infection des plaies. Je dis mais il a vraiment pas de bol ce bébé. Enfin c'est pas possible quoi. Et donc on le traite pour l'infection urinaire. Donc ils lui remettent un cinquième antibiotique. Enfin il a un milliard d'antibiotiques en deux jours. Bref. Et le lendemain, non mais franchement ça c'était l'apothéose. Le lendemain. Ouais. La pédiatre vient rentre dans la chambre. C'était la pédiatre sympa. Il y avait plusieurs pédiatres. Il y en avait une qui était sympa et une autre qui était un peu bizarre. Elle était sympa. Elle vient me dire, elle s'assoit, elle me dit, j'ai un truc à vous dire. Qu'est-ce qui va encore nous arriver? Le bébé, il a pas d'infection urinaire. En fait, ils se sont trompés. Ils ont inversé vos résultats avec les résultats de quelqu'un d'autre.
C'est pas vrai. Non, mais attends, c'est...
Je te jure. C'est hallucinant. Je te jure. J'ai regardé, j'ai dit, comment c'est possible?
Ouais.
Qu'en 2017, on inverse des résultats. Et j'ai expliqué moi là j'aimerais bien comprendre parce que moi je travaille dans un labo, j'aimerais bien savoir à quel moment c'est arrivé quoi. Enfin vous avez inversé quoi, les prélèvements, vous avez inversé les plaques dans les incubateurs, vous avez inversé les rapports, qu'est-ce que elle me dit bah non mais la directrice du labo va venir s'excuser, elle est venue, elle nous a apporté des fleurs, elle s'est platement excusée et tout. Donc en fait on a filé à ce bébé des antibiotiques dont il avait pas besoin. Donc en fait il avait pas d'infection urinaire, il avait pas de méningite, il avait juste une infection des plaies.
On disait depuis le début quoi. D'accord.
Donc c'est ce qu'on disait depuis le début. Et qu'un rein.
Ouais.
Donc voilà. Depuis il va très bien, mais c'est vrai que ça m'a.
Ouais, ça a été un défi. Puis, alors oui, là... difficile quand même. Ouais.
Ah ouais, difficile et surtout qu'après il y a eu la facture. Après il y a eu la facture de tout ça. Donc on a reçu la facture à la maison, $200,000.
Ouais, vache.
200 000
euros. Même pas, mais ouais, c'est hallucinant. Mais t'as ton assurance.
200 000 euros. Bah, en fait, ce qui m'a fait flipper, c'est que la claim a été, donc, des claims, quoi. Donc, là, l'hôpital envoie une claim à l'assurance et l'assurance accepte de la payer ou non, de négocier tout ça. Et l'assurance a tout refusé de payer. Comme c'était une urgence, parce qu'en fait, ils étaient tous out of network, alors que j'étais dans l'hôpital in network de mon assurance. Mmh. Mais ils étaient tous en dehors du network de l'assurance, mais j'y peux rien. C'était un dimanche, ils ont pris des chirurgiens qui étaient sur place. Ils ont pas, voilà, c'est pas de ma faute si l'hôpital ils emploient des gens qui sont pas dans l'assurance work. Et en fait, je m'étais renseignée du coup. Obama avait passé une loi juste avant. Je crois que c'était quelques mois avant, qui disait parce qu'il y avait des gens comme ça qui s'étaient retrouvés à payer $200,000 alors qu'ils étaient dans l'hôpital de leur assurance, mais qu'ils n'avaient que des médecins out of network. Ils avaient passé une loi qui disait que quand les gens avaient fait ce qu'il fallait pour aller dans l'hôpital in-network en cas d'urgence, alors c'était pas leur problème de payer, quoi. Donc, en fait, ils nous ont jamais couru après pour qu'on paye cette facture, mais nous, on était prêts à sauter dans l'avion pour rentrer. On peut pas payer ça, quoi.
Bien sûr.
C'est dingo. C'était dingue. Dingue. Cette histoire était dingue.
Ouais. Bon. Et donc, le petit Oscar, en tout cas, se porte bien maintenant.
Il va très bien, on fait juste attention parce qu'il a qu'un rein, ouais. Il a un régime un peu...
Adapté.
Pas trop, pas de sel, la viande, pas trop de viande, voilà. Je fais super attention à ce qu'il mange. C'est pour ça aussi que je cuisine autant et que je suis super chiante avec la bouffe, mais je veux vraiment qu'il préserve son rein au maximum.
Bien sûr.
Voilà.
Waouh, ok. En tout cas, merci d'avoir partagé ça. J'imagine que c'est aussi encore un peu émouvant de revenir sur ces moments qui n'ont pas dû être faciles pour toute la famille.
Ouais, c'était pas... Et puis ouais, ça a stressé tout le monde en France. Enfin, tout le monde en France était stressé, parce qu'en plus, on était tout seul. Donc ça, c'était dur, ouais. Parce qu'on s'était dit, il n'y en a personne, quoi. Il n'y a personne pour garder Sacha. Puis on était super inquiets,
quoi. Ça faisait quoi ? Ça faisait juste un an que vous étiez là, en plus. Enfin, vous étiez pas... Vous connaissiez.
Ouais, ça faisait un an et demi, ouais.
Ok. Et alors, en comparaison, la naissance d'Alba, pourtant en pleine pandémie, tu trouves que ça a été beaucoup mieux géré?
Oui, puis mon suivi était mieux. Je trouvais que le médecin était beaucoup plus sympa. Bah, allez, pas plus sympa, mais plus. C'est un jeune qui sortait de l'école et on avait des discussions de scientifiques tous les deux. Il était vraiment, il savait que j'étais virologiste et tout. Donc quand j'avais raconté toute l'histoire avec le rein, voilà. Il s'inquiétait un peu pour la petite et il me disait oui. Enfin, on avait vraiment une approche plus scientifique en fait, du truc, alors que ma gynéco était très elle appliquait tout ce qu'il y avait dans les bouquins, elle réfléchissait pas en fait, elle réfléchissait pas du tout. Et lui, il était très plus à l'européenne quoi, une vraie discussion plutôt que d'être j'ai l'impression d'être un numéro avec moi.
Ouais, ils ont une checklist.
Ouais, voilà, ils font la checklist, ils te posent tes questions bateau et après dehors quoi. Ouais. Alors que là, c'était plus des vrais, peut-être parce qu'il était jeune et qu'il sortait de l'école, je sais pas. Mais... Et l'accouchement, accouchement bizarre avec un masque sur la tête, toute seule parce que mon mari était pas là parce qu'il a gardé les petits. Il est arrivé juste après la naissance. Il est arrivé petite, elle était née depuis une demi-heure. Il est arrivé après parce qu'il avait fait garder les petits le matin. Évidemment, ses frères n'ont pas pu venir, donc c'était un peu le truc triste, même si je l'ai assez bien vécu, parce que j'y étais préparée. J'ai été déclenchée en plus, donc tout s'est fait assez calmement, facilement. D'accord. C'était mon dernier, mon troisième, voilà, j'étais un peu rodée, j'avoue. Et ils ont redécouvert la petite sœur dans la voiture, parce que, évidemment, pandémie, donc ils n'ont pas le droit de sortir de la voiture.
Ah oui, carrément.
Donc, quelqu'un m'a amenée à la voiture en fauteuil roulant avec la petite sur les genoux. Mon mari et mes fils ont dû m'attendre dans la voiture. Donc, j'ai mis la petite dans la voiture et c'est là que les frères sont détachés pour aller voir leur petite sœur dans la voiture.
Waouh.
Ouais, parce que je suis restée 24 heures, du coup. J'ai demandé à sortir après 24 heures.
C'est vrai que c'est ce qu'ils disent souvent.
Est-ce que c'est possible ici?
Pour le premier, les gens prennent les 48 heures à fond, parce qu'ici, c'est 48 heures si c'est par voie basse. Mais que après à partir du deuxième, les mamans veulent souvent rentrer avec leurs autres enfants.
Ouais, puis là j'avais vraiment envie qu'ils la rencontrent. Puis en fait, j'étais réveillée tout le temps là, toutes les heures, il y avait quelqu'un qui venait me déranger ou qui réveillait le bébé pour lui prendre ses trucs. Ah mais il me rendait dingue. Laissez-la tranquille, je viens de l'endormir, s'il vous plaît. et non, voilà, bref. Du coup, je veux rentrer chez moi. Laissez-moi rentrer chez moi. Et puis, obligé de mettre le masque toute la journée.
Ah ouais, même si c'est en chambre individuelle.
Ouais, en fait, t'as le droit de l'enlever quand ils sont partis, mais dès qu'ils sont là, tu dois le remettre. Dès comme ils sont tout le temps là, voilà, t'es tout le temps avec le masque, tu peux en mettre, d'y penser. Ouais, c'est chiant. C'était super chiant. Pourtant, j'avais un test négatif au Covid parce qu'ils m'ont testé. Hein. Ils m'ont testé. Obligatoire de te faire tester.
Avant d'accoucher, au moment où t'arrives ou...
Je l'ai fait le vendredi et j'étais déclenchée le dimanche, comme ça j'avais un résultat pour le dimanche. Et alors, en arrivant, ils m'ont dit, ah, vous avez fait un test vendredi? On va peut-être le refaire quand même, ça c'était il y a 2 jours. Je dis non, c'est bon. Ouais. J'ai fait vendredi, vous allez pas me remettre le coton-tige tout au fond du nez là, alors que je viens de le faire quoi. S'il vous faut de plus, je sors pas, je suis enceinte de 9 mois, je vais nulle part.
Question, dis donc, aux US, j'ai l'impression, mais du coup je suis intéressée de savoir un peu ta perspective par rapport à l'Europe, mais j'ai l'impression qu'on est quand même très très pro allaitement et finalement ça fait partie un peu de la norme. Alors en Belgique, je sais pas comment c'est, mais en France, on sait qu'il y a encore beaucoup de gens qui sont pas trop formés à tout ça. Et du coup, je me demande un peu, qu'est-ce que ça a été ton expérience, comme tu disais que tu allaitais Alba actuellement?
Oui, c'était très pro-allaitement, mais en Belgique aussi. Parce qu'en Belgique, j'ai accouché dans un hôpital qu'on appelle Amis des bébés. Et c'est des hôpitaux qui sont assez pro-allaitement. Donc, ils ont beaucoup de sages-femmes qui aident beaucoup. Ça m'a beaucoup aidé avec Sacha d'ailleurs, parce que c'était mon premier. Pour moi, c'était la même chose, en fait. J'ai pas eu l'impression que ce soit plus ou moins. J'étais dans un environnement pro-allaitement. C'est pourtant, ma mère nous a pas allaité, ni mes sœurs, ni mon frère, ni moi. Ouais, après, je comprends totalement celles qui n'allaitent pas et c'est un choix personnel. Il y a beaucoup de difficultés qui viennent avec l'allaitement. Les crevasses, c'est vraiment pas une partie de plaisir tous les jours, hein, clairement. Je le dis moi aussi. C'est très pratique une fois que c'est mis en place, mais le début est toujours difficile. Même moi, 3 enfants, les 3, ça a toujours été difficile au début. Parce que ça fait mal, parce que t'es crevé, parce qu'il prend pas forcément bien au début, qu'il faut qu'ils apprennent, que toi aussi. Enfin, à chaque enfant, j'ai l'impression que j'ai réappris à allaiter, quoi. Chaque enfant est différent aussi. Il y a des bébés qui têtent bien, d'autres qui têtent pas très bien, d'autres qui, enfin, c'est vraiment, je comprends honnêtement, je comprends qu'on puisse lâcher l'affaire. Plutôt, et passer au biberon parce que voilà, après c'est ou même pas essayer, quoi. C'est vraiment pour ça, je trouve que c'est vraiment un choix personnel et que ça devrait pas.
C'est évident.
Voilà, ça devrait pas être d'autres gens qui te disent quoi faire, mais c'est clair. Mais c'est bien de se faire entourer, de se faire aider, je trouve, quand même. Surtout pour les mamans qui ont envie d'allaiter mais qui n'y arrivent pas ou qui ont envie d'abandonner parce que justement elles trouvent que c'est trop difficile, qu'elles n'ont pas d'aide, quoi. Je trouve que c'est bien d'avoir des gens qui t'aident, des sages-femmes, des trucs comme ça, surtout au début. D'accord.
C'est un bon conseil, ça. Pour conclure cet épisode, je voudrais te demander, à ton avis, en quoi est-ce que tu es différente de Océane il y a, du coup, si je calcule bien, 4 ou 5 ans, ou peut-être même 15 ans, puisque tu as fait aussi 10 ans en Belgique. En quoi est-ce que le fait, en fait, de quitter donc ta Bretagne natale t'a changé aujourd'hui?
En fait, c'est marrant parce que je me suis fait la réflexion il y a quelques temps avec mon mari dans la voiture, j'en m'en parlais justement. Je disais que on est devenu encore, enfin, méga débrouillard et très positif. Ça veut dire, avant, j'étais plutôt du genre à me dire dès que j'avais une galère, oh là là, à me focaliser sur la galère, à me dire, oh, ça va pas marcher, on va pas y arriver et tout. Et en fait, à force d'avoir des galères, parce qu'on en a eu un paquet, et de voir qu'à chaque fois on s'en sort, à chaque fois on trouve la solution, en fait, maintenant, chaque fois que j'ai une galère, je dis, pas grave. On va régler ça, ça va. Il y aura toujours une solution, quoi. C'est voir plutôt le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide, quoi. Et et très débrouillard, ça veut dire que maintenant, je crois qu'il y a pas grand-chose qui nous fait peur, quoi. Tant qu'on est en bonne santé, franchement, il y a pas grand-chose qui nous fait peur, quoi.
T'es profondément optimiste, j'ai l'impression.
Ouais, je suis devenue profondément. J'étais peut-être un optimiste avant, mais maintenant, je suis devenue profondément optimiste, ça veut dire que je trouve qu'il y a à chaque problème, il y a une solution. Que ce soit dans le boulot ou dans la vie personnelle, il y a toujours une solution et qu'il faut plutôt voir la solution que le problème ou trouver des solutions. Ouais, il y a toujours moyen, même si c'est pas la solution parfaite ou que tout le monde espère, ben il y a toujours un moyen de contourner le problème. Tant qu'on a la santé, je trouve que le reste, c'est vraiment tout est réglable, quoi. Ouais,
est-ce qu'il y a un conseil justement que tu te donnerais rétrospectivement avec le recul de tout ce qui s'est passé?
T'inquiète, ma poule, ça va aller. Ouais, non, c'est parce que même quand on a déménagé, c'était on n'a jamais douté vraiment. Mais c'est vrai, quand je me suis retrouvée dans la voiture pour quitter Liège, pour aller à Charles de Gaulle, pour prendre avec toute ma vie dans des valises, mon fils, mon chien, mon mari, je me suis dit oh putain, qu'est-ce qu'on a fait? Avoir vendu notre maison, tout.
Pourquoi on s'en bat?
Pardon, j'ai dit un gros mot. Mais oui, oh punaise, qu'est-ce qu'on a fait, quoi? Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que c'est pas une bêtise? Je crois que c'est le seul moment où je me le suis dit. Le seul moment. Parce qu'une fois que t'arrives, t'es tellement dans l'action, dans dire, allez, hop, maison, truc, banque, tout régler les problèmes, qu'en fait, après, ça roule, quoi.
Avant de te demander notre question traditionnelle de fin d'épisode, Manon à une question qui la travaille énormément. Comment est-ce que tu fais pour faire d'aussi beaux goûters d'anniversaire avec un job à temps plein et 3 enfants? Alors, ceux qui ne te connaissent pas, il faut aller sur ton Instagram, découvrir les gâteaux d'anniversaire que tu fais. Franchement, ça fait envie et je me sens pas très très douée. Écoutez,
faut pas. Franchement, en fait, j'aime bien faire ça. C'est un peu mon hobby. C'est vrai que j'ai pas beaucoup de temps pour faire autre chose que de, donc je fais des gâteaux, je cuisine. Ça, en fait, la cuisine me détend. Je dis tout le temps que la cuisine, c'est un peu comme faire des expériences.
Ouais, c'est vrai.
J'ai l'impression que c'est vachement similaire, la cuisine et la science. Quand je suis un protocole scientifique, j'ai l'impression que c'est la même chose que quand je suis une recette. Et puis après, tu peux prendre des libertés avec des trucs pour, donc ça se rapproche, je trouve, assez. Et puis moi, ça me détend de faire des beaux gâteaux et ça fait plaisir à mes enfants. Donc ça va, je fais ça 2 fois par an, maintenant 3 fois par an, et j'adore faire ça. Et c'est vrai que le secret, c'est que je dors pas beaucoup.
Ah,
c'est la seule contrepartie, mais ouais, non, je dors pas beaucoup.
Tu dors combien d'heures par nuit?
5. Allez, 5 heures, une fois 5 heures pour fonctionner. 3 heures, je peux fonctionner, mais au radar.
Ouais.
5 heures, ouais, je fonctionne. 5 heures, je fonctionne avec 2 cafés, je fonctionne. Allez, idéalement c'est 6-7 heures, mais j'y arrive rarement. C'est plutôt 5-6 heures.
Waouh, t'as toute mon admiration.
Ouais. Mais ouais, c'est du boulot, mais bon, ça me fait plaisir. Puis je te dis, moi, je vois pas ça comme une corvée, donc voilà, je leur fais. Et puis c'est vrai que ils adorent, les petits, ils adorent. Ils sont trop fiers. Oh, moi, je suis fière.
Bah, ouais, tu peux. Alors, pour terminer, la question traditionnelle de fin d'épisode, c'est est-ce que tu pourrais nous faire découvrir, au travers de 3 expériences, de choses à voir, à vivre, à sentir, à goûter, ce que tu veux, pour découvrir en fait, la Californie d'Océane, ou en tout cas le sud Californie d'Océane. Est-ce qu'il y a 3 choses que tu pourrais nous conseiller ?
Alors, ouais, il y a pas mal de trucs à faire quand même en Californie du Sud. Donc ouais, nous on a vécu Los Angeles, Orange County, maintenant San Diego. Donc nous on adore San Diego. C'est une ville qui commence à être pas mal connue par les touristes maintenant. Il y a quand même pas mal de trucs. J'adore Old Town San Diego. Ouais, du côté de San Diego, il y a Coronado qui est super super sympa avec le vieil hôtel là où il y avait pas mal de stars dans les années 50 qui venaient. North County, San Diego, très sympa avec des belles plages aussi, Carlsbad, tout ça. Et j'aime beaucoup Orange County et les Beach Cities, donc Laguna Beach, San Clemente. Tout ça, c'est des petites villes que j'adore et qui sont pas forcément sur tous les guides touristiques quand on va dans cette région. Mais si vous passez de Los Angeles à San Diego et vous voulez vous arrêter dans des endroits sympas, Laguna Beach, très sympa, avec un petit glacier là qui fait des glaces maison qui sont trop trop bonnes. Dans la petite rue qui s'appelle la rue du chocolat, c'est trop sympa et San Clemente c'est trop beau. Il y a des, on veut les sunsets à San Clemente sont super beaux avec le pier et tout sur la plage, c'est magnifique. Et un autre truc qui n'est pas très connu non plus, c'est Catalina Island. Si vous voulez vous faire une petite journée sur l'île de Catalina, vous pouvez prendre le ferry à Long Beach, je crois qu'il y en a à Newport Beach. Passer une journée là-bas, c'est assez dépaysant, c'est juste, c'est pas très loin. Nous, on l'avait fait en voilier l'année dernière. On est passé un week-end là-bas et c'était très sympa.
Génial. Écoute, ça donne envie, surtout ces temps-ci avec bon l'hiver qui se pointe dans la plupart des pays, des gens qui nous écoutent. Hein. Toi, c'est pas exactement pareil. Ouais. Un peu limité cette année, en tout cas ça fait rêver. Je te remercie Océane vraiment d'avoir passé cette petite heure avec moi. Je te souhaite une excellente continuation. Essaie de dormir un petit peu quand même.
Ouais, c'est ce que tout le monde me dit, je crois que c'est numéro 1. J'ai un bon anti-cerne. Dès que je me prends mon anti-cerne, mon boulot, le gardien, parce qu'on a mon masque maintenant, quand il arrive, on est obligé de montrer notre badge pour qu'il nous check notre température. Quand il dit, quand je me mets pas mon anti-cerne, il me dit, oh, you look tired today. Merci. C'est ma tête de tous les jours. Comme d'habitude, je camoufle.
En tout cas, bravo.
Ça me fait. Bon, merci Anne-Fleur. En
Un
tout
grand
cas.
Merci à toi.
Merci beaucoup.
Et voilà, un nouvel épisode de terminé. Un immense merci à Océane d'avoir passé cette petite heure avec nous. Et puis un immense merci à vous d'être resté jusqu'au bout, j'espère que cet épisode vous a plu. Si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à retrouver Océane sur son compte Instagram Happy Family in California, je vous mets ça dans les notes de l'épisode. Et puis, si vous souhaitez discuter de cet épisode ou de peu importe quoi d'autre en rapport avec le podcast, retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Tous les liens sont dans les notes de l'épisode. On est sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, sur LinkedIn et même sur Mapster, là où vous retrouverez toutes les adresses de nos invités. Vous retrouvez toutes les infos pour pouvoir écouter absolument tous les épisodes, classés par destination d'ailleurs, ainsi que tous les articles de notre blog. Rendez-vous sur notre site internet www.frenchexpatpodcast.com. Si vous m'écoutez encore, bravo et merci. Et si vous voulez bien commencer l'année avec une jolie petite BA, rendez-vous sur votre plateforme de podcast préférée, abonnez-vous, mettez-nous plein d'étoiles, et le must du must, c'est vraiment nous laisser un petit mot, ça aide vraiment le podcast à gagner en visibilité. Sur ce, j'ai assez parlé, je vous souhaite une excellente semaine et j'ai hâte de vous retrouver dans quelques jours pour un nouvel épisode. À bientôt. Vous venez d'écouter un podcast réalisé par moi-même, Anne-Fleur Andrely, mixé et habillé par Alice Krief et produit par French Morning.
French Expat n'est pas le seul podcast de French Morning. Pour retrouver tous les podcasts du groupe, rendez-vous sur frenchmorning.com/podcast. À bientôt.